colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Après avoir beaucoup travaillé sur un sujet, on peut se permettre de rendre en plus très, très vivant, très humain, une trajectoire qui, sans être complètement représentative, est quand même très symptomatique des problèmes, disons. Alors moi, ça va être un peu le contraire, mais je vais trouver un responsable. non pas mes déficiences, mais bon, je voudrais vous remercier d'abord les organisateurs de ce colloque qui m'obligent à réfléchir à une question nouvelle. Ce n'est pas toujours le cas dans les colloques. Et je remercie donc en particulier Marion Trévisi, sa patience, et Jean Béchler, dont j'ai découvert le talent, à vrai dire. Alors je vais essayer de... Les historiens de l'art, évidemment, c'est énervant parce que c'est tout le temps en train de passer des images ou même de composer des... Vous allez voir des... Alors je vais essayer de revenir. Ici... Ne pas enregistrer, voilà. Voilà. Et donc, je vais essayer d'ouvrir ça. J'ai pas de... Voilà. Et je vais essayer de supprimer ça, voilà. Je voudrais vous remercier, Jean, pour cette commande et aussi pour, je dois dire, évidemment, la façon dont vous avez réussi à me persuader de travailler sur une chose sur une question que je ne m'étais pas posée. Et je dois vous dire que le fait que j'ai beaucoup admiré ce livre quand j'étais jeune étudiante, qui a fait partie de mes lectures préférées, nous étions tous les deux jeunes, c'était en 1976. Et en fait, donc, d'une certaine manière, j'étais bien obligée d'accepter de participer à un colloque à votre demande. Bon, je ne vous ferai pas l'affront d'épiloguer, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi je ne me suis pas intéressée à la question des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. La première raison, je crois, tient à l'idéologie, justement. Quand j'ai commencé à travailler sur l'art pendant la Seconde Guerre mondiale en France, donc nous étions en 1979, c'était il y a un siècle, comme vous dites, tout était à faire, mais la question spécifique, disons, du rôle des femmes ne se posait pas obligatoirement, en tout cas pas pour moi, qui avait été pourtant l'élève de Michel Perrault et d'Arlette Farge. Eh bien, elle ne s'est pas posée. Heureusement, je vois que tu approuves cette première remarque, ce qui me rassure. Alors, ce n'est pas du tout pour faire de la publicité pour mes livres, mais je vais essayer de parler de moi pour essayer d'expliquer aussi, finalement, ces questions historiographiques. Disons que je ne m'étais posé la question de façon tellement sporadique à travers ces textes que si je me relis aujourd'hui, disons dans ces livres-là et dans tous les textes que j'ai pu commettre sur le sujet, sur l'art et le monde de l'art, donc pendant cette Seconde Guerre mondiale, je trouve à peine quelques allusions ici ou là et quelques étonnements sans plus, disons. Autrement dit, il serait possible de m'accuser, ou encore pire, de m'accuser moi-même d'être restée sous domination idéologique masculine, au point d'oublier la question du genre féminin qui se posait quand même, il faut bien le dire, déjà dans d'autres domaines de recherche. Hein. C'est important aussi à spécifier. J'en viens à la seconde raison qui va peut-être contribuer à expliquer, sinon à excuser, cette quasi-absence de point de vue sur les femmes. Au moment où j'ai commencé à travailler sur le sujet, donc l'art et le monde de l'art en France pendant la Seconde Guerre mondiale, et je précise que j'en reste aux arts graphiques et plastiques, disons, à l'extrême fin des années 1970, tout était à faire, en fait. C'était vraiment un sujet tout à fait, une contrée tout à fait vierge. Et il a fallu privilégier, je dirais, le plus évident, à savoir la part émergée de l'iceberg, pratique qui a, je crois, concerné tous les historiens de la période. Ce n'est que dans un second temps que nous nous sommes tous, je dirais, enfin en tout cas un certain nombre, intéressés aux phénomènes clandestins et en particulier à la résistance. Dans un premier temps, nous avons surtout travaillé sur la part émergée de l'iceberg avec les archives qui étaient disponibles. Et là, je tiens à rendre hommage à une femme, Chantal de Tourtier-Bonazzi, qui était archiviste paléographe et qui dirigeait les archives contemporaines des Archives nationales, qui nous a permis de travailler par dérogation souvent, mais de façon vraiment très, très bonne, à partir donc de la fin des années 70. Dans un premier temps, donc, nous avons travaillé avant tout sur les phénomènes, disons, officiels. Alors, en art, c'était les institutions, la collaboration, l'exclusion du monde de l'art des juifs, des francs-maçons, des communistes, la presse artistique, le service artistique du maréchal Pétain, le corporatisme, les salons, les grandes expositions de propagande, les expositions, disons, dans les galeries en vue, le marché de l'art, le pillage des œuvres d'art appartenant à des collectionneurs juifs. Bon. Quelques figures, disons, de la résistance émergeait, mais c'était essentiellement des figures masculines, je pense en particulier à Picasso ou à Fernand Léger. Bien. Alors, il y avait quand même, de façon sporadique, il y avait des figures de femmes, en partie Rose Vallon, qui était impossible d'éviter, si je puis dire. Donc Rose Vallon qui participe à l'évacuation des collections et qui, à partir de l'automne 40, alors que les nazis s'installent au Jeu de Paume, en gros, elle va consigner, si vous voulez, sur des fiches, tout ce qui part, et ce qui permettra de récupérer une grande partie donc, des œuvres spoliées dans les collections juives de façon très systématique par les nazis. Même si son livre de souvenirs, Le Front de l'Art, donc 1939-1945, est publié aux éditions Plomb en 1961, il faut attendre 2006, en fait, pour qu'il y ait vraiment un travail systématique sur elle. Il y en a eu plusieurs depuis 2006, hein, et le premier donc est de Corinne Bouchoux, Rose Vallon, Résistance au musée. Alors, il y a une autre figure aussi que je rencontre dès cette époque, c'est la figure de cette Alsacienne, donc Jeanne Bucher, qui a, comme galeriste, qui exposait de l'art moderne, dit dégénéré par les nazis, donc avec tout ce que ça pouvait impliquer à cette époque. Mais et nous ne savions pas alors qu'elle cachait des personnalités résistantes ou persécutées, comme Georges Huguenet, Deschelettes, de Staël ou la photographe Roger André, qu'elle a même abrité chez elle. Il faut attendre en fait 1996 pour voir se tenir une exposition sur elle, donc au musée de l'université, en fait au musée de Strasbourg, et également avec donc un colloque à l'université. Alors, ce qui s'est passé pour moi du point de vue des femmes, si je puis dire, c'est qu'en 2012, lorsque j'ai assuré avec Jacqueline Monk le commissariat de l'exposition L'art en guerre, France 1938-1947, au musée d'art moderne de la ville de Paris, les choses du genre, là, me sont apparues très crûment. Pourquoi ? Je pourrais dire parce que j'avais enfin pris conscience d'une forme d'autocensure qui me faisait privilégier l'histoire des hommes au détriment de celle des femmes. Ce serait simple, et puis bon, toute honte bue, je passerai à autre chose. Et en fait, je ne le dirais pas parce que je ne crois pas que ce soit la raison du changement. La raison du changement, elle est largement d'un autre ordre. En 2012, Fabrice Ergotte, donc le directeur du musée, m'a demandé de penser à une exposition qui aurait pu et même dû avoir lieu 30 ans plus tôt, hein. Mais bon, passons là-dessus, c'est pas le problème. Mais en 2012, en tout cas, il n'était plus question pour moi de rabâcher. Vous connaissez notre malin plaisir en tant que chercheur à découvrir des choses nouvelles, sinon on s'ennuie. Et du coup, n'avais pas du tout envie de mettre en forme, disons, une exposition qui aurait répété ce que je savais déjà. Je voulais faire de cette exposition, de cette première exposition, puisque c'était la première fois que j'ai accepté un commissariat, un vrai lieu de recherche, ce que doit être, à mon avis, toute exposition, un vrai laboratoire de recherche. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec des moyens considérables, un catalogue avec 140 auteurs qui, évidemment, permettait d'ouvrir considérablement le jeu. Ça a donné, évidemment, Une chose qui a pu d'ailleurs désorienter, ça m'a valu disons un travail pendant 9 mois pour imposer ce titre qui était tout simplement le programme, c'est-à-dire l'art en guerre et non plus l'art de la défaite que voulait à la fois la communication, etc. Et on a défendu ce titre parce qu'il s'agissait vraiment de l'art en guerre. Autrement dit, des phénomènes de résistance en art pendant la période, donc en particulier pendant la période d'occupation, puisqu'on est parti volontairement en amont et on a fini en aval de la période. Il n'était plus question, sinon comme, disons, sorte de diapason, enfin, ou de contre-diapason, disons, de notre projet, de travailler sur l'art de collaboration. C'était au centre, il y avait une manifestation, disons, qui était représentée pour montrer, justement, contre tout, contre quoi se battaient, d'une certaine façon, tous ces artistes à la fois résistants, au moins dans leurs œuvres. Voilà. Ce qui nous intéressait, donc, c'est tout ce qui se passait dans les marges de l'histoire, dans les marges du monde de l'art officiel, dans les camps d'internement, dans les prisons, dans les ateliers clandestins, dans les galeries clandestines, dans tous les refuges, au fond. Et tout cela était d'autant plus exaltant qu'il y avait non seulement plus de femmes qui agissaient, mais un art et un type d'action et d'engagement beaucoup plus exaltant dans l'ensemble. Il y avait à étudier toutes sortes de formes d'art improvisé dans une atmosphère de pénurie de liberté, de matériaux. Il y avait aussi des formes variées de catharsis pour répondre à la situation historique pour le moins bloquée. Alors, avant d'en venir à quelques figures particulières de femmes, j'aimerais commencer par des considérations concernant les femmes en tant que genre, disons, et en tant que collectif représenté par un certain nombre d'institutions représentatives. Et pour ça, je remercie les auteurs qui m'inspirent pour essayer de synthétiser, au fond, leur contribution. C'est elle qui m'amène tout, si je puis dire. Je ne fais que synthétiser, là, au fond. Et je pense donc à Catherine Gonnard, Elisabeth Lebovici, Annie Lebrun, Anne Lisken, Claire Polan, Emmanuel Pollack, qui étaient des auteurs donc, de ce catalogue. En 1937, au musée du Jeu de Paume et sous l'égide de l'Exposition internationale des arts et techniques, se tient la première manifestation. La première manifestation internationale dévolue aux artistes femmes, donc les femmes artistes d'Europe. Et je me réfère au travail là de Catherine Gonnard et d'Elisabeth Lebovici, et je les cite. L'exposition affichait son souci de filiation tout en postulant l'existence d'un art féminin en dehors des différences de technique ou de courant. On peut dire que cette manifestation représentait l'apogée d'une idéologie reprise par les associations de femmes artistes, tant en France qu'ailleurs, associant la spécificité de l'art des femmes et les revendications de visibilité et d'égalité, à mérite égal, considération identique. Cette idéologie, elle était portée par l'association Femmes Artistes Modernes, FAM, une des associations organisatrices qui était créée par le peintre que vous voyez, donc la peintre que vous voyez, donc Marianne Kamak-Zeuger, qui de 1931 à 1938 avait la volonté de présenter, au fond, un ensemble d'œuvres issues de l'école de Paris, donc tous les ans. Alors, pendant l'occupation, pendant la guerre et l'occupation, le vieux salon de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, créé en 1881 par la sculptrice Hélène Berthaud, a continué ses activités avec une courte interruption en 1940 et 1941, puis donc ça a repris jusqu'en 1994. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le nombre des exposantes est moindre en 1942 et 1943, et pas seulement en raison des lois raciales, mais le salon de 1944, qui se tient en février 1944, apparaît véritablement comme un tournant par le nombre exponentiel de nouvelles exposantes qui vont former une nouvelle génération de membres pour les années à venir. Et manifestement, ce tournant signifie un mouvement visible un petit peu partout, disons, dans les autres milieux, pas seulement dans le milieu artistique. Alors, ces femmes se manifestent par des registres connus en art, et il est indéniable que chez les femmes, les portraits, les paysages, les fleurs demeurent des thèmes privilégiés, ce qui, sous le régime de Vichy et l'occupation, donc, n'est d'ailleurs pas contradictoire, hein, au fond, avec le fait de pouvoir exposer. Et ce que l'on voudrait surtout voir comme le rôle et les comportements perçus comme féminins, disons, chez des artistes. Je donne quelques exemples donc, de ces trois artistes qui ont été invités en 1944 et 1945. Donc, ces trois artistes, Hermine David, donc Henriette Kroll et Madeleine Lucas, en fait, elles affichent, disons, une modernité très circonspecte, écrivent Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici. Bon, moi, je dirais d'une modernité très raisonnable, hein, on va dire ça comme ça. Et disons, en tout cas, loin, évidemment, d'un art dit qualifié de dégénéré par la culture nazie ou par les critiques collaborateurs en France à ce moment-là. Alors, je pourrais évidemment parler d'un certain nombre de femmes dont on ne sait pas encore grand-chose, à commencer par celles qui ont fait partie du Musée de l'Homme, dont le réseau de résistance a été dénoncé, anéanti, ou de celles des ATP, des arts et traditions populaires. Donc, je pense à Yvonne Audon, qui était la compagne de Levitsky, et qui était bibliothécaire au Musée de l'Homme, donc qui a été déportée en Allemagne. Agnès Imbert, conservatrice au Musée des ATP, qui étaient deux institutions donc voisines au palais de Chaillot, Jacqueline Bordelais, mesdames Simonet et Leleu, qui ont été déportées en Allemagne aussi. Je pourrais aussi évoquer un certain nombre de femmes dont on a exposé les travaux lors de notre exposition en 2012. Je vais essayer de me concentrer sur des figures dont on sait, disons, désormais plus de choses et même de plus en plus de choses. Et je crois que c'est là ce qui est frappant. C'est qu'on sait de plus en plus de choses. Bon, vous sentez bien, ben, j'espère, disons, avoir été assez clair, que je suis mon hypothèse depuis le départ, c'est que le temps, au fond, permet de plus en plus l'émergence de figures féminines, de façon, disons, exponentielle, si je puis dire. Comme si on trouvait ces figures parce que désormais, on s'intéresse à la face cachée de l'histoire, d'une part, et aussi tout simplement parce qu'on recherche ces personnalités de femmes pour elles-mêmes, si je puis dire, de plus en plus. Les artistes donc de plus en plus connus et répertoriés sont plutôt, je dirais, les photographes. Alors, ça correspond aussi à l'intérêt de plus en plus grand que nous avons en général pour la photographie. C'est un phénomène qui est assez récent. Je pense à l'exposition, d'ailleurs, très belle exposition qui a peur des femmes photographes au musée d'Orsay, et donc qui fait émerger là de nouvelles personnalités très importantes par la puissance de leur œuvre, vraiment qu'on ne connaissait pas. Enfin, même nous, professionnels, si je puis dire, quand même de la scène artistique, on a vraiment découvert de nouvelles figures. Ces femmes photographes, elles avaient déjà trouvé dans la photographie d'avant-guerre un travail indépendant. Bon, c'était important parce que quand on était photographe, disons, on était plutôt bien rémunéré par la presse d'illustration donc on travaillait pour des journaux de mode en particulier, mais pas seulement, et ça permettait d'explorer ailleurs, disons, en tant qu'artiste de façon plus singulière. Donc nombre de femmes photographes qui travaillaient à Paris avant-guerre avaient fui l'antisémitisme ou la montée du nazisme un peu partout en Europe. Bon, ainsi Gisèle Freund, Germaine Krull, Roger André, Ilse Bing, Madame Dora, Lisette Model ou Nora Dumas. Un certain nombre d'entre elles s'exilent, d'autres se cachent en France, arrêtent de photographier, bien souvent, dans un contexte d'exclusion antisémite et de censure en photographie comme ailleurs. Bon, Dora Calmus, par exemple, dite Madame Dora, donc, est une photographe qui est autrichienne, donc portraitiste. Elle doit vendre son atelier en 1940 et elle va se cacher donc en Ardèche jusqu'à la fin de la guerre. D'autres vont résister, comme la française Janine Niepce, qui rejoint la résistance en 1944, pour laquelle elle va développer des films. Elle va participer à la libération de Paris comme agent de liaison et elle sera ensuite, après la guerre, reporter photographe. Hergy Landau refuse de porter l'étoile jaune et elle réussit à échapper aux persécutions. Et en 1942, elle publie à Nice, en collaboration avec Hélène Nankin, « Comment photographier les enfants ». Roger André, donc, était l'épouse de André Kertész, qui était également émigrée en France. Elle se réfugie d'abord en Touraine, puis elle est protégée à Paris par la galeriste Jeanne Bucher, qui l'héberge, et lui donne la possibilité même de faire quelques portraits de commande, celui d'André Lhote, le peintre, en 1943, et celui de l'autre peintre moderne, donc Kandinsky, sur son lit de mort en 1944. Et ici, vous voyez donc deux très beaux portraits d'elle, donc de Dora Maar, la compagne de Picasso, et de Max Ernst, ceci dans les années 1930. Laure Albin-Guyot a été directrice des archives photographiques d'art et d'histoire depuis 1932. Elle est chargée en 1939 de rapatrier les archives photographiques au château de Blois. Et de retour à Paris, elle va réaliser toute une série sur Paris protégé. Elle photographie en 1940 le musée du Louvre qui est vidé de ses œuvres. Et la période de l'occupation est aussi pour elle, c'est d'ailleurs le fait d'un certain nombre de créateurs, le temps des poètes et de la poésie. On sait bien le rôle de la poésie dans ces périodes de crise intense. En 1941, elle accompagne de photos la cantate de Narcisse de Paul Valéry et d'autres poésies. On connaît mieux, vous connaissez sans doute mieux Lee Miller. Elle a débuté sa collaboration comme modèle au magazine Vogue en 1938. Elle est passée de la mode et du surréalisme à la photo de guerre. Au moment du débarquement en Normandie, on la retrouve dans l'armée américaine, dont elle suit les troupes jusqu'en Allemagne et en Autriche. Elle est avec Dave Sherman, la première photographe à pénétrer dans le camp de Dachau le 30 avril 1945, et elle prend tout. Si je puis dire, les charniers, les amoncellements de cadavres, quelques survivants, mais aussi les femmes rasées, les généraux allemands. Il sera bien difficile de dire, me semble-t-il, après elle, qu'il existe un art féminin, disons, qui se reconnaît dans sa féminité, sous-entendu sa pruderie ou sa prudence. J'en viens à présent aux artistes plasticiennes, donc peintres, dessinatrices et sculptrices, et je pourrais en choisir d'autres, mais là encore, ont émergé récemment des personnalités que l'on ne peut plus oublier, disons. Je pense à Sonia Delaunay, qui fait partie de ces femmes artistes dont la carrière s'est, jusqu'à très récemment, très largement effacée derrière celle de leur compagnon, très puissant peintre, Robert Delaunay. Et d'une certaine façon, nous avons vraiment mis en valeur le travail commun du groupe de Grasse seulement lors de notre exposition L'art en guerre en 2012. Il faut attendre aussi donc cette exposition, l'exposition donc sur Sonia Delaunay qui vient d'être réalisée, qui a été donc au musée d'art moderne de la ville de Paris, puis ensuite à la Tate à Londres, pour qu'on se penche sur les activités de Sonia Delaunay, disons non seulement pour elle-même, si je puis dire, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Anne Montfort, donc la commissaire, me commandant un texte, j'ai dû me pencher sur le sujet. J'allais dire enfin, hein, vous pourriez me dire enfin. Et à la mort de Robert Delaunay, donc à Montpellier, Sonia vit à Grasse de 1941 à 1944, où elle rejoint les Harpes et les Magnelli, également cachés. Bon, elle est d'origine juive, ce qu'elle prend en considération pour la première fois, je crois, dans son existence. Elle risque la déportation, donc ils créent ensemble, hein, dans une sorte de refuge, c'est ce que j'appelais tout à l'heure un refuge. Elle et Sophie Tawaber continuent leur œuvre moderne, abstraite, et travaillent avec Jean Harpe et Alberto Magnelli. Ils réalisent ensemble des lithographies et des gouaches remarquables. Je dirais que de 1941 à 1946, Sonia compile aussi, et peut-être surtout même, les documents emportés sur l'œuvre de son époux Robert Delaunay, qu'elle cherchera toujours à mettre en valeur, hein, même si son œuvre est très importante chez elle. Elle exposera à partir de 1945 à la galerie Drouin, l'une des plus prestigieuses galeries parisiennes non suspectées de collaboration avec le nazisme, c'était assez rare à l'époque pour les galeries. Et elle-même réalise à la fin de l'occupation quelques œuvres en faveur de la résistance. Elle décore le centre de la Croix-Rouge en 1944 à Toulouse, donc vous voyez cette œuvre dont il est question. Sophie Tawaber Harpe est aussi une immense artiste dadaïste. Elle avait disparu derrière la figure non moins importante de son compagnon Hans Harpe ou Jean Harpe, ça dépendait des périodes d'ailleurs, hein, le prénom également donc alsacien. Personnalité éminente du groupe Dada, fondé à Zurich pendant la Première Guerre mondiale, elle danse, décore, fabrique des costumes, peint une œuvre abstraite très originale. Elle part à Zurich en janvier 1943, où elle va mourir intoxiquée par le monoxyde de carbone, donc, qui était émis par un poêle de gaz défectueux. Et donc Harpe va s'arrêter d'ailleurs de travailler plusieurs années, à la fois pour lui rendre hommage et en profonde dépression. Les dessins et peintures abstraites de ces artistes sont singulières, je dirais, par les matériaux de fortune qui sont utilisés, qui, hein, c'était nouveau à l'époque, mais les signes les plus évidents, disons, de la catastrophe se retrouvent plus clairement dans quelques œuvres singulières. Et je finirai par ça et j'en citerai trois. Celle de Toyen, donc tchécoslovaque d'origine, surréaliste, qui donc va émigrer en France. Et je cite là Annie Lebrun, qui dit qu'à mesure que le désastre se précise, son recours au dessin dit sa détermination à interroger l'avancée des ténèbres à travers donc une suite de cycles, le spectre du désert, seuls les crécérelles pissent sur le décalogue, tire et cache-toi guerre, dont vous voyez là une des planches à droite, donc en bas. Et presque tous les albums sont accompagnés de textes du jeune donc Eisler, qui est recherché comme juif par la police allemande, que Toyen cachera 5 ans dans son appartement. Donc ces cycles constituent une des plus impressionnantes chroniques du malheur des temps. Et dans le même registre, si je puis dire, une autre figure est apparue tardivement, mais définitivement, celle de Charlotte Salomon. Sa personnalité et son œuvre écrite et illustrée auraient pu sombrer dans le néant de l'histoire si en 1971, son manuscrit n'avait pas fini au musée historique juif d'Amsterdam, où il est désormais conservé. En fait, Charlotte Salomon l'avait confié in extremis à un médecin dans son entourage avant de son départ pour un camp de la mort. Il faut attendre beaucoup plus longtemps, en fait, que 1971 pour connaître cette œuvre. Et à cet égard, je dirais qu'il y a une première exposition au Musée national d'art moderne en 1993, mais qui passe relativement inaperçue, mais pas du tout celle de 2006 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, et encore moins le récit très émouvant de David Fuekinos, donc, qui reçoit le prix Renaudot en 2014 et la même année le prix Goncourt des lycéens, donc, qui raconte au fond l'histoire de Charlotte. Alors, c'est un manuscrit qui est laissé donc par Charlotte Salomon de plus de 1300 pages, avec environ 800 gouaches, qui sont les derniers signes de sa vie sur la Terre. Elle sera donc assassinée à Auschwitz en 1943. Ces pages ont été rédigées et illustrées dans l'urgence, alors que Charlotte Salomon départ à 23 ans. Tout ça entre la mi-1940 et la mi-1942. Elle a été envoyée en fait par ses parents de Berlin alors que la situation était devenue insoutenable donc pour les Juifs. Elle avait retrouvé ses grands-parents exilés à Villefranche-sur-Mer. Et après le suicide de sa grand-mère, Charlotte s'est retrouvée enfermée au camp de Gurs avec son grand-père. Elle a été relâchée, ils ont été relâchés, elle a appris de ce dernier l'épouvantable destin familial et en particulier la récurrence du suicide chez les femmes de la famille, y compris la mère de Charlotte, malheur qui vient s'ajouter au traumatisme, bien sûr, qu'elle est en train de vivre. Et de ce double traumatisme, au fond, que naît une œuvre inouïe, une sorte de théâtre musical, de sombre opéra en images, disons. Je cite Griselda Pollock, donc elle parle donc d'une autobiographie, mais plutôt, disons, d'une liturgie moderne pour la commémoration dans une période historique si particulière par une jeune femme en deuil qui tente au fond de réassembler un monde perdu. Elle essaie de, au fond, c'est le fait des œuvres d'art, on pourra y revenir, c'est cet effet catharsis des œuvres ou du journal. Tous les chagrins sont supportables quand on en fait un conte, quand on les raconte, disait Karen Blixten, c'est de cet ordre-là. Donc le récit débute avec l'enfant des parents, le suicide de Charlotte, sa tante, puis celui de sa mère, puis le remariage du père, son éducation aux beaux-arts, son premier amour avec un répétiteur de chant. Et au fur et à mesure que l'on avance, disons, dans sa vie, l'album, donc, et la preuve de ça, le trait qu'elle utilise pour dessiner, pour sa façon, disons, de donner cette forme, ce trait est de plus en plus agité, expressif, disons, impulsif. pulsion de vie, donc, hein, contre conditions mortifères dans la réalité cruelle de l'histoire. Et Myriam Lévy est la dernière artiste dont j'aimerais rappeler le nom et l'œuvre, alors qu'en fait, on n'a plus d'elle que cette carte à jouer là. Hein. On ne sait absolument rien d'elle, sinon donc cette carte, alors sur laquelle, du coup, j'ai un peu travaillé, parce que c'est tellement une énigme, et comme une pierre vraiment laissée, une pierre très lourde, laissée dans le jardin de l'histoire. Et au fond, bon, après avoir enquêté, c'est une carte à jouer qui était dans la collection d'André Breton, au moment de la vente Breton. Donc je pense qu'elle a dû dessiner ça à Marseille, au moment où les surréalistes attendaient de pouvoir partir en exil. C'est une carte qui est assez proche, en plus, dans son esprit du jeu de tarot qui a été dessiné par des surréalistes. Et donc, on ne sait rien d'elle, sinon qu'elle est morte à Auschwitz. C'est un cas limite, vraiment, hein, qui relève surtout de l'implacable travail d'anéantissement des êtres, bien sûr, par le nazisme. Il ne semble pas relever, disons, de la question du genre a priori, mais il est certain que Myriam Lévy soit une femme, disons, ajoute sans doute à la fragilité de cette trace que nous avons exposée en 2012, donc dans l'Arrangère à Paris, puis à Bilbao, dans l'espoir, il faut vous le dire, que ça ferait aussi, puisque j'en parlais volontairement aux journalistes en particulier, que ça ferait venir des informations, mais ça n'a fait venir littéralement aucune information. Il reste donc juste cette dame de pique ou de cœur. Enfin, chacun interprétera les choses comme il le veut, signée et datée, en fait, 1941. C'est une figure féminine, encore une fois, et donc par laquelle je voulais finir. Alors, pour épiloguer, disons, il suffisait de changer le point de vue sur la guerre. Pour moi, ça a été très tardivement, à partir des années 2000, pour découvrir davantage de femmes dans la partie immergée de l'histoire, partie où nous les retrouvons dans des actions artistiques et de résistance, davantage donc que dans la partie émergée, justement. Il fallait attendre ces années pour que les études de genre commencent à multiplier les études de cas. Alors seulement, donc, sont sorties de l'ombre des personnalités que l'on ne soupçonnait pas et dont on négligeait l'importance. Soit qu'elles aient été les compagnes d'hommes eux-mêmes remarquables, comme Sonia Delaunay, donc Sophie Taubert-Harpe, soit qu'elle n'ait pas encore attiré l'attention sur elle, comme Charlotte Salomon, Toyen ou Myriam Lévy. Elles sont désormais bien inscrites dans l'histoire et vont y rester, mais je dirais le travail ne fait que commencer, enfin, sur ce terrain-là. Et je remercie encore une fois les organisateurs de ce colloque de m'avoir obligée à travailler sur cette question, à essayer de commencer à réfléchir un peu sérieusement à la question, bien que fort tard, la commande a des vertus que je ne soupçonnais pas dans ce cas-là.